Ça vous intéresse pas?
Non, non plus.
Est-ce qu'il y a un sport qui vous intéresse?
Ben oui, moi j'aime bien cette animation, moi j'aime bien ça.
Bienvenue dans Grand Écart, l'émission qui a pour ambition de parler de sport à tout le monde. On va être dans l'analyse critique, le recul historique,
le recul absolu et le liftage.
Parler de très nombreux sujets de société, le sport va être notre fil rouge. L'idée, c'est d'intéresser les passionnés comme moi, mais aussi ceux qui détestent le sport.
Et le bout du fil.
Moi, c'est Mathieu. Baseball. Et c'est parti.
Bonjour à tous et bienvenue sur Jet FM pour un nouvel épisode de Grand Écart. Aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance du sport, les premières grandes manifestations sportives, les premiers grands événements.
Pourquoi vous êtes sportif ?
Est-ce que vous auriez joué au
football ? Écoutez, moi je n'ai plus l'âge de jouer au football, mais ça m'intéresse quand même. On n'aura pas l'esprit du Real de Madrid.
Au tout début de notre espèce, Homo sapiens, on peut se poser la question de départ, de savoir si la compétition, le principe compétitif, est intrinsèque à l'espèce humaine ou si c'est quelque chose qui s'est créé en cours de route. Donc pour toutes les périodes qui sont le paléolithique, le néolithique, on n'a quasiment aucune trace archéologique. Mais on a quand même des études qui nous disent que, pour déterminer par exemple qui sera le chef dans une tribu, on va utiliser des concepts comme qui sera le plus fort, qui sera le meilleur chasseur. Donc il y a déjà une idée comme ça de domination physique et on estime aujourd'hui que le jeu, notamment, s'amuser, et la compétition ont toujours existé dans les sociétés humaines. On avance de quelques centaines de milliers d'années d'un coup pour arriver en Mésopotamie, il y a quelques 5000 ans, dans ce qui serait aujourd'hui l'Irak, la Syrie actuelle, où on va trouver les premières traces de sport et de loisirs. Donc on est il y a 5000 ans, les puissants de l'époque vont organiser des banquets, des grandes fêtes pour un mariage, ou en marge de foires commerciales, des choses comme ça. On va avoir là de la musique, on va avoir là de la danse, et on va avoir les premiers jeux. On a les premières preuves archéologiques d'existence des loisirs, notamment le dé. Le principe du dé apparaît à cette époque-là, ou les jouets pour enfants, les poupées, les choses comme ça. Donc on a trouvé des jeux qui ont 4000, 5000 ans, des jeux de société qui ressemblent physiquement un peu au backgammon, mais dont on ne connaît pas les règles. Il y a une idée ici qui est assez centrale pendant une immense période, c'est que sport et loisirs sont deux notions imbriquées. On a des concepts qui sont fusionnels. C'est sur le tard qu'on va séparer les deux. On a par exemple dans l'œuvre de Shakespeare, qui est un des premiers auteurs de l'histoire à avoir utilisé le mot « sport » dans son acception moderne, on a à peu près une quinzaine de fois l'occurrence du mot « sport » dans l'œuvre de Shakespeare. C'est un terme fourre-tout à l'époque, qui regroupe ce qui vont devenir les sports modernes, mais aussi la chasse, la fauconnerie, tout un tas de trucs comme ça qui mettent en scène des animaux par exemple. Et c'est plus tard qu'on va scinder les concepts pour les spécifier plus précisément. On peut même dire encore aujourd'hui qu'ils sont un peu fusionnels, parce que en imaginant un match de foot de très haut niveau dans un stade, vous avez des gens sur le terrain dont c'est le métier de jouer au foot, vous avez dans le public des gens dont c'est le loisir de les regarder jouer. Et puis dans ce public, il y a des gens qui le lendemain vont eux-mêmes aller jouer au foot avec leurs potes, et donc ça devient leur loisir de jouer cette fois. On peut prendre un truc aussi célèbre, c'est la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. À la mi-temps du match, vous avez un concert avec une méga star, donc il y a eu Michael Jackson, il y a eu les Rolling Stones, il y a eu Lady Gaga, il y a eu Snoop, il y a eu Madonna, ils l'ont tous fait. Donc sport et loisir sont deux notions extrêmement proches, et c'est tard dans l'histoire qu'on a séparé les concepts. Il y a environ 2000 ans, on est sur les premiers combats de boxe, par exemple, à Bagdad, qui sera dans le futur Irak. Tout ça a lieu quand on regroupe du monde pour occuper la foule, pour amuser la foule, que ce soit un mariage, un festival, les foires marchandes. Tout ce qui va être concours d'adresse, de tir à l'arc, course de chars avec des chevaux attelés, Tout ça apparaît à peu près à cette époque-là. La chasse, de son côté, elle a une fonction première depuis toujours qui est de se nourrir, mais progressivement, elle va devenir de plus en plus scientifique, si on veut, de plus en plus aboutie, avec des méthodes de plus en plus efficaces. Et parallèlement à ça, puisque les guerres se multiplient entre les différentes poches de civilisation, le bon chasseur sera un bon guerrier. Donc on a, pour devenir un bon guerrier, l'obligation de s'entraîner à la chasse. On peut aussi parler des facteurs, les gens qui livrent le courrier de l'époque, qui le font à pied au départ et qui donneront naissance plus tard aux courses à pied. Donc le plus connu dans l'Antiquité grecque est parti de la ville de Marathon pour annoncer à Athènes que Sparte était vaincue et on a donné à cette anecdote historique le nom d'une compétition moderne qu'on a inventée avec les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896, le marathon. Donc une des premières grandes civilisations occidentales, c'est l'Égypte des pharaons, l'Égypte antique, qui a duré pendant 33 dynasties, ça a duré plusieurs milliers d'années. Donc pour bien prendre conscience de l'ampleur, il y a une anecdote qui revient régulièrement, c'est Cléopâtre est plus proche dans le temps de la création de l'iPhone que de la construction des pyramides. Pour les Égyptiens de l'époque de Cléopâtre, les pyramides, c'était déjà des trucs antiques avec des archéologues pour les étudier. Donc c'est une immense séquence historique, l'Égypte des pharaons, et pendant très longtemps, on avait perdu la capacité à comprendre ce monde parce qu'on ne pouvait pas lire les hiéroglyphes. Donc il y a une équipe d'archéologues français qui était menée par Champollion, donc l'histoire n'a gardé que lui, mais ils étaient plusieurs, et en fait ils ont trouvé ce qu'on a appelé la pierre de Rosette, donc c'était une pierre avec trois faces écrites en trois langues, dont certaines qu'on savait lire, et c'était le même texte partout, et du coup on a réussi à traduire les hiéroglyphes, qui sont une langue extrêmement riche, avec des lois, des poèmes, de la littérature. Donc on a pu mieux comprendre, mais c'est très tard, hein, c'est le milieu du 19e, la civilisation des pharaons. Et on a appris beaucoup de choses. Notamment que sur les chantiers de construction des pyramides, on organisait des spectacles athlétiques pour les travailleurs, concours de force, lutte, tir, des combats de canne, de l'aviron, des régates. Le concept de l'arbitre arrive à cette époque-là. Donc on voit qu'à ce moment-là, le sport, balbutiant, c'est quelque chose qu'on utilise comme le loisir des autres. On met en scène des gens qui se confrontent pour occuper ceux qui sont en pause à une fête, à un mariage, à un marché. Il y a un truc qui va être un peu récurrent dans l'histoire et qu'on va répéter à plusieurs reprises, c'est le puissant, le tout-puissant, qui se met en scène à faire du sport. Donc on a un pharaon qui est connu pour être le pharaon athlète, c'est Amenophis, qui faisait des courses de chars, qui faisait du tir à l'arc, qui faisait de l'équitation, qui faisait des régates à la voile. Et ce schéma-là, quelqu'un qui est à tout pouvoir, mais qui se mêle à la plèbe pour faire du sport, ça a traversé les âges, il n'y en a pas 50, mais il y en a au moins un à chaque fois.
Vladimir Poutine sur les tatamis du complexe de Sotchi au bord de la mer Noire. C'était en février 2019 une démonstration devant les caméras comme en a l'habitude le président russe.
La civilisation suivante qui va nous intéresser beaucoup dans ce développement, c'est la Grèce antique. Donc la Grèce de l'époque déborde sur les côtes turques d'aujourd'hui. Donc c'est toute la Grèce continentale, toutes les îles des Cyclades et puis tout le flanc gauche de ce qui est aujourd'hui la Turquie. On a quelques villes qui ont laissé leur nom dans l'histoire, certaines existent encore, Athènes évidemment, Corinthe pour son célèbre canal, Sparte, une cité extrêmement violente, Troie pour son cheval, ou Phocée par exemple pour la création de Marseille, la cité phocéenne, puisque les Phocéens sont des Grecs qui sont dans la Turquie actuelle, qui ont pris leur bateau pour aller fonder, mais aussi Naples, Gênes, tout un tas de villes. Marseille, la plus vieille ville de France, a été fondée par les Grecs de Phocée, et c'est pour ça qu'on l'appelle la cité phocéenne. Et puis il y a un endroit qui n'est pas vraiment une ville, mais qui est aussi extrêmement célèbre de la Grèce de l'époque, c'est Olympie. Il y a deux endroits qu'on peut confondre assez facilement, qui sont pourtant distants de plus de 700 km, c'est Olympie, l'endroit, et le mont Olympe, qui est à l'autre bout de la Grèce actuelle. Donc, je vais faire un petit focus sur deux villes qui sont très particulières et qui n'ont pas du tout le même modèle. L'idée, c'est qu'à l'époque, on n'a pas la Grèce en tant qu'État unifié, on a des cités-États qui se font la guerre beaucoup et qui n'ont pas les mêmes modèles de développement, les mêmes modèles de société. On peut commencer par Sparte, qui est une ville très particulière, extrêmement violente du point de vue de sa structure, où on a le dressage des enfants. Tous les ans, à Sparte, 9000 nouveau-nés sont sélectionnés, en général sur des critères de force, de c'est un beau bébé ou pas, physiquement, et les autres sont jetés dans un gouffre. Donc on ne garde que 9000 piles tous les ans, qui, à partir de leur naissance, rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le dressage collectif, c'est le terme officiel, ça dure jusqu'à leurs 30 ans, et c'est une formation militaire ultra disciplinée pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui les Spartiates, hein, qui ont cette réputation de soldats extrêmement aboutis. Les garçons et les filles rentrent au gymnase, l'endroit où on fait du sport en Grèce, à l'âge de 12 ans. Donc ça, c'est une anomalie pour l'époque et pendant très longtemps de mettre les filles aussi au sport. La logique à l'époque, c'est que si un homme athlétique et une femme athlétique font un enfant ensemble, il aura de fortes chances de l'être lui aussi. Et ça fera des enfants forts et des soldats de bon niveau pour aller se battre contre Athènes. Donc ça, c'est le modèle spartiate, avec un film notamment qui doit s'appeler 300, qui est une espèce de caricature historique, mais qui illustre un peu tout ce monde-là.
Now the more you sweat here, the less lead in battle. My father taught me that fear is always a constant, but accepting it will make you stronger.
Pas loin de Sparte, vous avez la cité concurrente, Athènes, qui est avec Rome clairement la ville qui a le plus marqué l'histoire occidentale, où on va former seulement les enfants de bonne famille à quelques disciplines que sont l'athlétisme, la lutte, l'équitation, la chasse. Contrairement à Sparte, les enfants vont rester dans leur famille et on va les mettre en compétition et on va construire des stades déjà gigantesques pour l'époque pour les compétitions sportives athéniennes. Il y a notamment un stade de 50 000 places qui est inauguré en l'an -329, le stade panathénaïque. Et ces mots du passé sont parfois toujours utilisés. Donc vous avez aujourd'hui, dans les championnats de foot et de basket de Grèce, plusieurs clubs, l'Olympiakos, donc Olympie, et le Panathinaikos, le panathénaïque. Donc c'est tous les Athéniens, comme le panafricanisme, là c'est le panathénaïsme. Au sein de la société athénienne, il y a un homme qui va être particulièrement important. Donc il y en a plusieurs qui ont laissé leur place dans l'histoire. Mais Hippocrate est particulièrement important parce qu'on considère que c'est le premier de tous les médecins. On va, avec Hippocrate, développer un nouveau rapport au corps. Notamment, on va intégrer l'hygiène de vie, qui va notamment impliquer un régime alimentaire cohérent. La diététique va naître à cette époque-là. Et dans ce cadre-là de l'hygiène de vie, la gymnastique va faire partie de l'hygiène elle-même, qui va être une partie de la médecine. Donc Hippocrate va dresser la liste des effets sur le corps des exercices physiques et on va, pour la première fois, adapter la pratique au cas particulier en fonction de l'âge ou de la corpulence des gens, etc., des patients. Donc dans l'œuvre d'Hippocrate, qui est absolument majeure, il y a quand même une énorme erreur, c'est la théorie des quatre humeurs avec le sang, la bile jaune, la bile noire, je ne connais pas ça très bien, mais il aura fallu attendre des siècles et des siècles avant de pouvoir contredire la théorie des humeurs d'Hippocrate. Mais on s'est rendu compte que ça tenait pas du tout. Donc on a à cette époque-là des guerres innombrables entre les cités-états grecques. Et on va faire évoluer l'art de la guerre et on va développer le principe du citoyen-soldat. Donc on va généraliser l'instruction physique et ça va se passer dans des lieux qu'on appelle les gymnases, qui sont des lieux d'instruction intellectuelle et physique. Il y en a qui sont extrêmement connus et dont les noms aussi ont traversé les âges. Vous avez par exemple Platon qui a fondé l'Académie et vous avez d'un autre côté Aristote qui a fondé lui le lycée. Tous ces noms-là sont arrivés jusqu'à nous. À un moment donné de l'histoire, quand deux armées n'arrivent pas à déterminer un vainqueur, on est sur une sorte de match nul si on était dans le domaine du sport, on va envoyer le meilleur soldat de chaque armée en 1 contre 1. Donc il y a par exemple dans le film 3, le personnage de Achille, qui est très connu pour être celui-là, celui qu'on envoie à la fin se battre tout seul contre le meilleur guerrier de l'armée adverse. Et on voit dans cette séquence-là, notamment des outils guerriers qui sont devenus avec le temps des sports. Donc vous avez Achille qui arrive à cheval, donc l'équitation est sport olympique. Lui, il a une épée qui est l'escrime sport olympique. Et le type qui est en face, qui a un Golgoth de 2 mètres, lui envoie dessus des javelots qui sont des armes devenues sport olympique, etc., etc. Donc le gymnase, dont je parlais plus tôt, c'est vraiment un élément clé dans la cité athénienne et dans la plupart des cités grecques futures. D'où vient le mot gymnase ? L'histoire, elle est fascinante. En gros, vous avez à Olympie, depuis des siècles, des compétitions sportives tous les 4 ans, auxquelles ne sont autorisés à participer que les hommes citoyens grecs. Donc ça exclut énormément de monde, notamment toutes les femmes et tous ceux qui sont non citoyens ou esclaves qui n'ont pas le statut de citoyen grec. Donc ils sont très peu nombreux à être éligibles à participer aux Jeux d'Olympie. Les femmes n'ont même pas le droit de venir sur place assister aux épreuves, alors que tous les hommes, quel que soit leur statut, jusqu'à l'esclave, ont le droit d'assister aux épreuves. Et puis, on a un jour une femme de bonne famille et qui entraîne son fils, elle s'appelle Phérénice de Rhodes. Elle vient, déguisée en homme, assister son fils qui est en finale de lutte. Et sa toge se prend dans je ne sais quoi au moment où son fils gagne et elle se retrouve nue devant tout le monde. Sacrilège, une femme. La sanction à l'époque, c'est la peine de mort. Il y a un rocher en haut d'Olympie qui s'appelle le Tipaion et elle est censée être jetée dans le vide, sauf qu'étant on va dire une espèce d'aristocrate de l'époque, elle est épargnée. À partir de ce jour-là, cependant, on va décider que pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de femme, tout le monde va devoir être nu. Tous ces hommes vont être nus, et comment on dit nu en grec ? Gymnos. Et donc gymnos va donner le gymnase, la gymnastique, c'est le moyen de s'assurer qu'il n'y ait pas de femme sur place.
Philippe Catherine, je vous laisse aller lui. Wow. Ça s'appelle nu, et là, il y a un choix artistique.
Non, ou cacher un revolver quand on est tout nu. Ou vivre comme on est né, nu, vivre comme on est né. Tout simplement tout.
Donc ce monde va donner naissance à certains métiers qui n'existaient pas, comme par exemple le pédotribès, l'entraîneur, avec le préfixe « pédo » qui veut dire « l'enfant », donc celui qui va former les éphèbes, les jeunes enfants de bonne famille, à devenir des citoyens et des sportifs accomplis. En gros, le modèle grec, c'est de la philo, des maths le matin, et de la lutte et du javelot l'après-midi pour faire un homme complet. On a un historien romain, Juvénal, puisque la Grèce pendant longtemps va être une province de Rome, qui aura une maxime extrêmement célèbre qui caractérise les Grecs et qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Donc grâce au gymnase, qui va être présent partout, qui va déborder du cadre et se retrouver dans toutes les villes de Grèce, ainsi qu'aux guerres que les cités grecques vont devoir faire ensemble contre des ennemis extérieurs, comme les Perses par exemple, une identité commune va commencer à se forger et progressivement, les cités-états, Sparte, Athènes, Delphes et autres, vont s'unir pour devenir un grand pays qui sera la Grèce unifiée. Il y a un truc qui est assez étonnant concernant la Grèce, c'est que dans la plupart des langues du monde, on dit « Grèce » ou en anglais « Greek ». Le terme consacré est quasiment le même partout, sauf en Grèce. La Grèce, en grec, ça se dit « Hellas ». Et vous avez par exemple aujourd'hui, en Italie, un club de foot qui joue dans les premières divisions qui s'appelle le Hellas Vérone, et c'est donc les Grecs de Vérone, mais en grec. Donc à cette époque-là, on a deux concepts centraux sur tout ce qui va avoir trait au sport, aux loisirs, à l'instruction, etc. C'est des gens qui ont pensé le monde différemment, les concepts sont un peu différents des nôtres aujourd'hui. Donc il y a un concept qui s'appelle scolae. Scolae, c'est le loisir. C'est les choses qu'on fait pour progresser en tant que personne. Et ce qui est délirant, c'est que le mot « scolae » va donner « school » ou « école » et que du coup, pour tous ceux qui sont encore étudiants, sachez-le, le mot « scolae » à la base, c'était « le loisir ». Et puis vous avez un autre concept qui est un peu difficile à expliquer, mais qui s'appelle « l'agone ». C'est ce qui se rapproche le plus de l'idée de compétition dans la culture grecque, mais c'est un truc qu'on va trouver aussi par exemple dans le théâtre. Donc par exemple dans une pièce, dans une tragédie grecque, au moment des scènes les plus importantes, les scènes de combat, les scènes où il y a des grands débats, c'est ce qu'on appelle l'agone, c'est un peu le climax si on veut aujourd'hui, c'est le moment qui compte. Sauf que le principe compétitif à proprement parler, le concept n'est pas le même exactement. Mais le nom originel des Jeux olympiques antiques, c'est Oi Olympiakoi Agones. Donc l'agone d'Olympie, c'est le moment qui compte, le moment où ces années d'entraînement vont finir par payer. Donc des Jeux antiques, il y en a ailleurs qu'à Olympie, il y en a même partout dans tout le monde grec. Les plus importants sont ceux d'Olympie parce qu'ils sont en hommage à Zeus, qui est le dieu de tous les dieux, le père de tous les dieux. Et donc c'est pour ça qu'ils sont les plus importants. Mais vous avez déjà à l'époque un espèce de grand chelem, comme au tennis aujourd'hui, avec Delphes, Némée, Corinthe et Sparte, les jeux de ces villes-là, quand vous les gagnez tous, vous avez fait, on va dire, le grand chelem. Donc les jeux d'Olympie, dédiés à Zeus, on connaît leur date de naissance officielle. C'est 776 avant Jésus-Christ. En tout cas, c'est la date du premier registre des vainqueurs. Avant, on n'a rien. Donc au début, Olympie, ça n'est presque rien. C'est pas une ville, il y a seulement un temple en hommage à Zeus et un stade, donc un endroit où on fait de la course à pied ou des courses avec des chevaux. La première édition, il y a une seule épreuve, une épreuve de course. Il y a que deux villes qui viennent, Pisa et Élée. Mais il y a une croissance extrêmement rapide et en à peu près deux siècles, on va transformer cet endroit anonyme en ville tournée vers les Jeux tous les quatre ans. Donc c'est une compétition qui ne permet pas à tout le monde de participer, c'est une compétition pour l'élite sociale, les Jeux antiques d'Olympie. Parce qu'il faut des moyens pour prendre deux ou trois semaines sur son temps libre, arrêter de travailler, donc ça veut dire que vous n'êtes pas pêcheur ou boucher ou je ne sais quoi, vous avez l'occasion sans problème d'arrêter de travailler pendant trois semaines. Donc souvent ceux qui vont participer, c'est ce qu'on appelle les éphèbes, les jeunes garçons de bonne famille. Ça va se dérouler tous les quatre ans. Le monde grec va grandir, hein, avec le temps, il va y en avoir vraiment partout, jusqu'en Égypte, il y aura des jeux grecs en Égypte. Donc il y a quelques concepts qui sont intéressants, qui naissent à ce moment-là. Il y en a un qui s'appelle la trêve olympique. Donc ça a duré pendant 1000 ans, les Jeux antiques. Et pendant 1000 ans, tous les 4 ans, pendant 2-3 semaines, s'il y avait des guerres réelles, elles s'arrêtaient. Il y avait une trêve militaire pendant les Jeux d'Olympie. Parce qu'on ne faisait pas la guerre pendant les Jeux en hommage à Zeus. Donc ce concept-là de trêve olympique, qui a eu lieu sans quasiment aucune exception pendant 1000 ans, Coubertin l'avait en tête au moment de remettre au goût du jour les Jeux à l'époque moderne, et la première fois que le monde a été confronté à une guerre en même temps qu'une édition olympique, en 1916, il y avait des Jeux qui étaient prévus à Berlin, et bien la guerre du XXe siècle a eu raison du concept antique de trêve. Il n'y a pas eu de Jeux olympiques et la guerre a continué. C'est assez peu connu, mais il y a à Olympie, sur place, une des sept merveilles du monde antique. Donc il y a le colosse de Rhodes, le mausolée d'Halicarnasse, les pyramides de Gizeh, etc. Et il y en a une, c'est la statue de Zeus en or et en ivoire. Donc il y a un mot pour dire ça, quelque chose qui est en or et en ivoire, c'est Chryséléphantin. Donc la statue Chryséléphantine de Zeus à Olympie, 30 mètres de haut, est une des sept merveilles du monde. Il reste absolument rien. Hein, des sept merveilles du monde antique, il reste une colonne du temple de Diane à Éphèse, en Turquie, et la pyramide. La statue de Zeus a disparu depuis plus de 1000 ans. C'est juste un souvenir dans les livres. Si jamais parmi vous, ceux qui écoutent, vous vous retrouvez un jour dans les terres grecques et pas dans les îles, et que vous avez envie de visiter, n'allez pas à Olympie, qui est un champ de ruines, il n'y a plus rien à voir à Olympie. Mais allez plutôt à Delphes, plus au nord. Et Delphes, c'est assez bien restauré, et il y a une vue magnifique sur la vallée, c'est dans les montagnes. Delphes, c'est très très beau. Donc les Jeux olympiques, progressivement, vont changer de fonction, d'âme. Le concept va muter. Donc au départ, c'est quelque chose qui est plutôt religieux, qui se fait en hommage au dieu des dieux. Et puis progressivement, en fait, ça devient tellement important qu'on va consacrer sa vie, quand on est athlète, à faire ça, s'entraîner pour briller à Olympie. On va devenir professionnel, on va être payé pour ça, rémunéré par la cité qui nous envoie, que ce soit Athènes ou Sparte ou une autre, qui en échange va retirer du prestige de ses victoires. Donc la rivalité entre les cités va devenir de plus en plus symbolique, se jouer là-bas, et il y aura un peu moins de guerre déjà. Donc il y a un impact concret. Mais il y a une bascule gigantesque sur la formation de ces athlètes, puisqu'au début, l'idée, c'était philo, maths, javelot, lutte. Et à un moment donné, ça va être lutte, 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 lutte. On va enlever les maths, on va enlever la philo et on va faire juste des athlètes. Parce que c'est devenu tellement important qu'on ne va pas perdre du temps à faire autre chose. Et l'homme complet disparaît pour devenir un athlète abouti.
Voilà Mérinos. Il vient de Marathon. Il a battu tout le monde aux Jeux d'Olympie. Il est plus rapide que le cheval, plus rapide que le vent quand il souffle en tempête. L'un de vous devra le battre à la course.
Eh vas-y toi, Astérix, t'es plus rapide que moi. Plus rapide que le cheval qui souffle en tempête.
Je vous ai dit plus tôt que les femmes étaient interdites de présence sur place sous peine de mort. Il y a quand même des exceptions, notamment la prostitution féminine sur place qui existe. On a toute une population qui vit en marge des Jeux d'Olympie, des commerçants, des gens qui organisent des paris, des artistes qui viennent faire la manche, etc. On a la professionnalisation des athlètes, la commercialisation du concept. On a un peu la perte de l'identité religieuse. Et dès l'époque antique, on a des penseurs majeurs, Platon par exemple, qui vont se rendre sur place et écrire des textes. Platon a écrit un texte pour parler de la dérive commerciale du sport. Le sport a perdu son âme. Platon, il y a 2000 ans. Donc on a tout un tas de choses qui existent déjà à l'époque. Par exemple, la corruption sportive. On a un athlète, Eupolos de Thessalie, qui a été pris la main dans le sac pour avoir acheté la défaite de 3 adversaires au pugilat, qui est l'ancêtre de la boxe. Et il y a les sanctions qui sont connues. Il a pris une amende qui servira à construire des statues de Zeus. On a par exemple les transferts. Aujourd'hui, dans le foot et dans plein de sports, on a des joueurs qui changent de club, qui vont, on appelle ça même maintenant des mercenaires. Les transferts existent depuis bien longtemps. On a Astylos de Crotone, en 484 avant Jésus-Christ, qui est champion olympique pour Crotone, puis une deuxième fois pour Crotone, et une troisième fois pour Syracuse. C'est un athlète qui a été transféré au cours de sa carrière et qui a été champion olympique pour 2 villes antiques différentes. Donc progressivement, le gymnase va devenir un lieu uniquement consacré au sport. Les médecins, les penseurs vont critiquer la professionnalisation des athlètes. Platon va écrire un texte de référence très critique contre l'agone, l'esprit de compétition. Donc c'est vraiment la première critique philosophique du sport qui a perdu son sens d'origine. Mais ce qui est clair à cette époque-là, c'est que les débats d'intellectuels n'ont aucune prise sur le réel. Les jeux continuent à se développer sans jamais revenir en arrière. Et les récompenses financières vont devenir absolument colossales. Donc il y a des archéologues, des historiens qui ont essayé d'évaluer en parité de pouvoir d'achat. Donc les sommes de l'époque représenteraient combien aujourd'hui? Et on a par exemple au 5e siècle avant Jésus-Christ déjà, 500 drachmes pour le vainqueur, ce qui représente 700 000 dollars. Au 4e siècle, 100 ans plus tard, on a jusqu'à 6000 drachmes. On est à l'époque de Platon. Ça donne en PPA, en parité de pouvoir d'achat, 8 millions de dollars. Donc quand vous gagnez une épreuve olympique 5 siècles ou 4 siècles avant Jésus-Christ, vous devenez riche et célèbre. Il y a donc pas mal de gens à l'époque qui vont profiter de cette notoriété et de cette fortune pour devenir par exemple politicien et briguer des mandats pour après obtenir le pouvoir politique. Donc on a tout un tas de schémas à l'époque qui en fait sont précurseurs du monde d'aujourd'hui. Et on se rend compte, en étudiant la société athénienne et plus largement grecque de l'époque, qu'elle a infusé énormément et beaucoup participé au monde actuel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on verra dans le prochain épisode que la Rome antique, donc le grand deuxième axe avec Athènes, c'est tout aussi important pour expliquer le monde moderne. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.